Ça vous dirait d'être entrepreneur? Retrouvez-nous tous les mois dans cette chronique réalisée en partenariat avec Initiative Ariège. Sur Radio Galaxie, la radio du Sud Toulousain. Et un podcast sur radiogalaxie31.com.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, content d'être avec vous sur Radio Galaxie 98.5 FM et nous revoici avec les équipes d'Initiative Ariège, avec Loïc Resto, son directeur général, pour la suite de nos aventures, devenir entrepreneur. C'est la cinquième émission, Loïc ?
C'est la sixième, Bruno, déjà.
Comme le temps passe. On a vu plein de choses, est-ce que tu peux nous le rappeler ?
Alors, dans les cinq émissions précédentes, Bruno, donc on est parti, je dirais, du point le plus éloigné, c'est-à-dire le phase de l'idée. On a commencé donc à être dans les actions d'une personne qui avait le souhait de découvrir ce qui était le monde de l'entrepreneuriat, puisque voilà, il y a un souhait de changer un petit peu de vie, de vouloir être à son compte. Et la première émission portait sur ce sujet des premières études, des premières démarches quand on est à la phase de l'idée. Lors de l'émission numéro 2, nous sommes allés dans le cercle professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes dont c'est le métier d'accompagner des personnes qui sont désireuses de se lancer dans un projet de création d'entreprise. Donc on a fait un petit peu le point sur quelles étaient ces structures. Nous sommes rentrés un peu plus dans les détails à l'émission numéro 3, où on a parlé de ce qu'on appelle communément, donc c'est un anglicisme, c'est le mix marketing, donc c'est les quatre fondations qui vont définir la future entreprise, c'est-à-dire à partir de l'étude qu'on a faite, notamment l'étude du marché, quels produits, quels services on va proposer, à quel prix, comment on va se faire connaître, comment on va communiquer, et enfin comment on va distribuer, soit nos services, soit nos produits. Nous étions sur l'émission numéro 4, là, dans les détails chiffrés. Quand on parle d'une projection d'installation, il faut forcément mesurer donc ce que ça coûte, ce qu'il nous faut réunir pour que ça puisse être rentable. Et donc on appelle ça, en vulgarisant, le mot prévisionnel. Et donc nous étions allés dans le détail de ce que comprend un montage prévisionnel qui va être utilisé notamment par des lecteurs qui entourent le projet comme un banquier. Et enfin, justement, sur la dernière émission, nous étions dans le concret puisque nous avions invité à cette table le président de la Fédération bancaire départementale de l'Ariège pour justement qu'il nous fasse part de ce qu'attend une banque par rapport à un projet, puisque très souvent, les projets sont suspendus à un accord bancaire puisqu'il faut réunir des fonds.
Tu avais d'ailleurs insisté sur l'importance de rassembler des fonds pour une raison très simple, c'est-à-dire que éviter d'aller soi-même avec ses fonds propres qui ou risquer de s'épuiser et psychologiquement et financièrement.
Oui, comme beaucoup de choses, l'entreprise est faite d'équilibre. Donc il est forcément toujours important de pouvoir montrer à une tierce personne comme une banque qu'on prend aussi des risques soi-même, c'est-à-dire qu'on a prévu de mettre un petit peu d'apport personnel. Mais il ne s'agit pas d'engager toutes ses économies ou l'économie de sa famille ou de ses amis dans le projet. Donc il existe des outils pour que vous puissiez justement avoir les fonds nécessaires. Ça s'appelle notamment des prêts bancaires, ça s'appelle des prêts d'honneur, on y reviendra. Mais l'idée, c'est que vous puissiez démarrer avec suffisamment de trésorerie et que vous puissiez aussi garder un petit peu de sécurité à titre personnel. Il s'agit de garder un petit peu ce qu'on appelle vulgairement un matelas pour faire face à d'éventuels imprévus.
Et aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de deux personnes qui sont, une collaboratrice qui travaille avec toi à Initiative Ariège. D'une part, Karine, bonjour.
Bonjour.
Et de l'autre côté, Bruno, qui lui est un chef d'entreprise, en fait, qui a profité de l'accompagnement de structures pour pouvoir monter son entreprise. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par Bruno, justement. Bruno, vous faites quoi ?
Alors, nous, on brasse de la bière en Ariège. Je vais juste faire une petite précision. Je ne suis pas chef d'entreprise. Où je ne suis plus chef d'entreprise, puisque nous sommes quatre sur le projet et qu'on a décidé d'être en gérance tournante. Et depuis un mois, c'est maintenant mon associé Jean-Yves Brabant qui est officiellement le chef d'entreprise.
On y reviendra justement, c'est une remarque très intéressante pour Loïc sur une prochaine émission, c'est-à-dire que le choix de la structure juridique et du mode de gouvernance d'une entreprise est très important pour à la fois le confort psychologique des membres ou des partenaires et le confort aussi de l'entreprise qui permet d'avoir des visions différentes et une complémentarité dans la gestion de l'entreprise. Alors, si on revient, Bruno, un petit peu sur l'origine de cette création de Brasserie en Ariège, c'était quoi ?
Alors, à l'origine, c'est un groupe d'amis. Donc, on est quatre à avoir réfléchi à ce projet, amis d'enfance. Et puis, il nous a fallu quand même une quinzaine d'années pour se lancer. On était donc tous en profession. Il y avait un maçon, un géomètre, un technicien commande numérique dans l'aéronautique et puis un infirmier. Et on s'est tous reconvertis pour finalement être maître de nos destins professionnels.
Et les propriétaires d'une brasserie en Ariège.
Voilà, ça aboutit à l'acquisition d'un lieu et la création de la brasserie Coop qui est située à Payès et qui existe maintenant depuis juin 2020, donc depuis 2 ans.
Quand vous avez eu ensemble cette bande de copains, qui avaient chacun leur métier, l'idée de monter de créer cette brasserie, qu'est-ce que vous avez fait en premier ?
Alors la première chose, une fois disons qu'on a validé l'idée ensemble, ça a été de s'exercer à brasser dans le garage d'un d'entre nous pendant 1 ou 2 ans pour parfaire notre technique et notre savoir-faire qui était somme toute modeste, puisqu'on avait seulement pu visiter quelques brasseurs, glaner ici et là des expériences comme dans les associations de brasseurs amateurs. Une fois que la confiance sur la fabrication était établie, on s'est mis en quête de trouver un lieu proche donc de là où j'habitais, où j'habite toujours à Payès, et puis loin des grandes villes. On aspirait tous à quitter les grandes villes. Et en même temps, il a été important pour nous de chercher des accompagnements, de chercher de l'aide sur tout ce qui est montage financier, juridique, tout ce qui occupe en fait la comptabilité notamment et la gestion d'une entreprise. Quoi.
Vous ne veniez pas du monde de l'entrepreneuriat, vous aviez chacun votre métier ou libéral ou salarié à côté, et c'est cette passion commune pour la bière qui vous a fait vous rassembler autour de ce projet.
C'est ça, oui c'est ça.
Alors vous avez passé plusieurs années à vous forger la main en faisant de la bière dans un garage, vous goûtiez vous-même, ensuite vous faisiez tester à d'autres à côté Et avant de sortir votre première bière publique, il s'est passé combien de temps ?
Il faut que je remonte en arrière, il s'est passé à peu près 3 ans, je dirais. Donc les premières expériences étaient chez un brasseur pro qui passait la main, qui passait la retraite, et qui nous a fait bénéficier de son installation et de son savoir-faire dans les Cévennes. Un petit clin d'œil à Franck d'ailleurs. Oui, c'est ça, de 2-3 ans. Ça a été le temps nécessaire pour nous de vraiment parfaire nos recettes, puisqu'on avait certaines connaissances, mais qui étaient centrées sur un formateur, donc ce fameux Franck. Et on savait pertinemment qu'on ne pourrait pas reproduire sa technique ailleurs, comme ça, du premier coup, ne serait-ce que parce que le matériel change, l'eau change, le climat change, les céréales vont changer, les matières premières donc, vont changer. Donc, on s'est employé à utiliser les matières premières, enfin, de faire appel à des fournisseurs qu'on savait futurs pour nous. Donc, on a travaillé nos recettes pendant 2 ans, c'est ça.
Ouais, donc, vous avez cherché localement, en fait, les fournisseurs qui vous convenaient pour pouvoir réaliser vos bières, d'avoir le goût que vous vouliez avoir, parce que quand même, c'est gustatif, donc c'est pas comme un béton. Là, il y a quelque chose qui est très subjectif, qui correspond à votre image, à ce que vous voulez transmettre.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut dire qu'on est tous issus plus ou moins du nord de la France, voire de la Belgique. Tous les quatre, on a des origines. Dans notre enfance, on a passé une bonne partie de nos vacances chez nos grands-parents, pour la plupart, ou nous-mêmes nos parents. Et donc, adolescence, ce furent les bières belges qui sont arrivées en premier dans notre palais.
Vous avez cette culture, en fait.
Voilà, et on avait à cœur de reproduire des bières plutôt maltées, type belge donc, que ce qu'on peut voir aujourd'hui de manière plus répandue dans le phénomène de bière geek par exemple, où on va retrouver des bières très houblonnées ou très fruitées ou très acides. Voilà, on n'a pas cette culture-là.
C'est ce qui vous différencie un petit peu des autres brasseurs du coin peut-être. C'est peut-être déjà même un élément de marketing.
Oui, c'est vrai qu'on en joue. Enfin, quand on nous demande un peu d'où vient ce type de bière, Voilà ce qu'on répond, c'est notre culture nordique, on va dire. On n'est pas très attiré finalement par toutes ces bières qui ont des caractères très spéciaux, malgré une demande, une tendance. Hein. Mais on a aussi choisi ce type de bière parce qu'il nous a semblé rapidement que c'était la plus facile, disons, à découvrir. Ensuite, on va pouvoir aller vers les IPA, les NIPA. Alors, c'est toute une...
toute la tendance actuelle du monde de la bière, voilà. En fait, là, oui.
Mais d'abord, pour découvrir la bière et l'apprécier, il nous semble qu'il faut aller vers des produits plutôt équilibrés, fins, sans déséquilibre. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Vous avez réussi, vous avez fait 2-3 ans pour pouvoir sortir vos premières bières à l'export du garage et prendre des premiers contacts. Comment ça s'est passé pour chercher des clients?
Alors, on a commencé donc à passer le pas de la porte de nos futurs clients après avoir rencontré donc les structures qui nous ont accompagnés tout au long du développement et de la création. Donc, ça a commencé par la Chambre des métiers de l'artisanat, qui nous a orientés aussi sur Initiative Ariège. En 2018, donc été 2018, l'accompagnement commence avec donc une chargée de mission qui s'appelle Nina Munizero, qui a changé maintenant de fonction, et qui nous a donné un plan, une marche à suivre. Et dans cette marche à suivre, il y avait ces étapes clés dont vous avez probablement parlé dans les émissions précédentes, donc de réaliser une étude de marché. À partir du moment où on a eu ce plan, on savait quel pas il fallait mettre devant l'autre. Et après avoir identifié nos recettes, on est allé voir une 150 à peu près enseignes en Ariège avec des lettres d'intention d'achat. Donc ça aussi sur conseil de nos accompagnants, la Chambre des métiers et l'Initiative Ariège, puisque c'est un prérequis à un accord bancaire. Lorsqu'on va voir une banque, il faut avoir un projet solide, effectivement des apports, du matériel, aussi un plan de financement prévisionnel, comme tu disais Loïc, mais il faut aussi avoir du concret, disons, ou j'appellerais ça du pré-concret, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Donc là, on arrivait avec nos petites bières, nos verres, quelques petites feuilles, on faisait déguster, et puis les magasins qu'on démarchait étaient preneurs, ils nous faisaient une petite signature qui n'engageait à rien, mais ça s'appelle une lettre d'intention d'achat. On en a récolté une centaine, qui a été un appui à notre dossier. Voilà donc les premières démarches avec le milieu professionnel, donc ce qu'on appellera plus tard, nous, avec plus d'aisance, le B2B, le business to business. Il s'est fait comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est lancé, on n'a pas eu l'effet de surprise, on savait à quoi s'attendre, les gens les connaissaient, donc ça a été simple pour nous de venir avec notre première production, toute fraîchement étiquetée, avec notre nouveau logo, avec des gens qu'on avait déjà vus. Ça s'est fait naturellement et rapidement, un ou deux mois, on a réussi à avoir un petit carnet de clients d'une cinquantaine de magasins.
Et la transition était parfaitement faite parce que, Karine, vous aviez les deux étiquettes en fait. L'étiquette de la Chambre des métiers et de l'artisanat et maintenant l'étiquette Initiative Ariège. C'est-à-dire que votre principale fonction depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les créateurs de projets, les porteurs de projets et de leur donner cette feuille de route, c'est ça?
Oui, tout à fait, Bruno. Alors, c'est vrai que dans mon expérience à la Chambre de métiers, j'étais vraiment sur le volet accompagnement en amont du projet. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, on aide les futurs chefs d'entreprise qui souvent arrivent, ils ne savent pas quelles sont les étapes à respecter. Donc, on va leur donner toutes les clés, essayer de les accompagner, leur donner les outils pour faire leur étude de marché. Hein. C'est vraiment le préalable pour voir si effectivement il y a une activité possible par rapport aux produits ou aux services qu'ils souhaitent commercialiser. Une fois que cette étude de marché a été réalisée, voir si le potentiel client est là, on va les aider à chiffrer leur projet, à voir s'il y a une réelle viabilité, une rentabilité de l'activité. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir se rémunérer de leur activité. Donc, c'est vrai qu'au préalable, en fonction de la situation du chef d'entreprise qui peut avoir bénéficié de son chômage pendant 1 ou 2 ans, ça permet à la future entreprise de conserver de la trésorerie sans se rémunérer, sans se verser de rémunération. Et voilà, donc une trésorerie qui se constitue, qui est conservée dans l'entreprise, c'est très, très bien de garder ça. Après, une fois que cette structuration financière a été établie, validée, c'est là effectivement où j'interviens plus du côté d'Initiative Ariège sur le financement du projet par le biais de prêts d'honneur qui viennent en complément des prêts bancaires.
Loïc, il y a un message que j'ai trouvé intéressant de la part de Bruno tout à l'heure, c'est qu'il a fallu 2 à 3 ans pour pouvoir sortir ses premières bières et commercialiser ça. Ça veut donc dire que des fois, créer son entreprise, ça prend du temps.
Oui, c'est impossible de définir un temps dédié à la création parce que à cette question, qui est souvent la première hein, de nos interlocuteurs porteurs de projets, on répond toujours avec précaution, ben que ça dépend beaucoup de l'objectif que se donne le futur entrepreneur. Ils ont aussi passé 2 ou 3 ans parce que je pense qu'ils sont perfectionnistes. Il y a des personnes qui auraient été plus vite, peut-être que ça aurait été derrière assorti de moins de succès commercial. Donc je pense qu'ils étaient tous les quatre à vouloir bien faire les choses et proposer un produit distingué qui leur ressemble, dans lequel ils vont pouvoir se retrouver. Donc il n'y a pas de règle, je dirais, temporelle. La seule, finalement, inspiration que ça me procure d'entendre Bruno parler de son entreprise, c'est qu'il faut combattre la précipitation. Il faut s'assurer, en fait, que quand on s'engage dans un parcours comme ça entrepreneurial, c'est pour du terme, donc il faut se donner tous les moyens, parce qu'il y aura des aléas dans tous les cas, donc il faut se donner au moins au démarrage les moyens d'être sûr que ça va fonctionner. Et je trouve que dans sa description, c'était vraiment intéressant.
Juste un truc, Bruno, c'est qu'il y a aussi une chose qui est intéressante dans votre parcours, c'est que vous vous êtes pas précipité tout de suite à acquérir du matériel dernier cri pour faire votre truc. Vous avez pris le temps de rechercher les outils adaptés à votre production et à vos moyens.
Oui, je pense que ça nous a servi. On s'en rend compte maintenant. C'est vrai qu'avec avec du recul, c'est une évidence, mais sur le moment, c'était juste... On faisait avec les moyens du bord, quoi.
Donc, vous êtes allé chercher du matériel de l'occasion, par exemple, à droite, voilà, à gauche, rechercher des structures existantes à la vôtre, comment acquérir un local ou un lieu pour vous installer.
C'est ça, et... C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, Loïc, parce que pendant notre accompagnement, au départ, en tout cas, on nous a dit, bon, un projet, c'est un an et demi, 2 ans. Nous, ça a été plus long pour plusieurs raisons. Peut-être il y a un peu cette idée-là de perfectionniste, mais sûrement d'ailleurs. Mais il y a aussi le temps qu'il nous a fallu pour trouver un lieu. C'est-à-dire que notre projet, il est singulier, bon, comme tous les projets, mais il ne colle pas forcément avec le modèle exclusif de l'entrepreneuriat. Nous étions, nous quatre, dans une phase de nos vies, donc à l'approche de la quarantaine, où on avait le besoin de changer d'air, de changer d'environnement. Nous étions tous citadins, et ça faisait longtemps qu'on se projetait en milieu rural. Donc le projet de la brasserie coop, pour nous, c'était corrélé à un besoin de changement d'existence lié à une reconversion professionnelle. Et on ne se serait pas vu acheter un hangar ou louer un hangar en périphérie d'une ville rurale. Il fallait qu'on trouve non seulement un lieu de vie, mais en plus un lieu de travail. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi à trouver cette perle rare qui finalement a lié 2 maisons d'habitation, une structure qui porte l'entreprise, plus du terrain pour... Y essayer la permaculture, on essaie de travailler aussi avec les animaux, etc. Il y a tout un contexte qui va avec notre projet. Voilà pourquoi ça a été si long, je pense. Et ben, alors, pour en revenir au matériel, pardon, du coup, je ne réponds pas à la question. Donc, vu qu'on avait cette contrainte-là, on savait qu'on allait dépenser beaucoup d'argent à l'acquisition de notre lieu. Il fallait forcément restreindre sur le reste, parce que c'est difficile de négocier dans l'immobilier déjà. Les prix sont ce qu'ils sont. Et on savait aussi, par notre apprentissage premier, qu'on pouvait très bien fabriquer de la bonne bière avec du matériel d'occasion issu des industries laitières. C'est ce que font beaucoup de petits brasseurs en commençant. Donc, nous avons acheté des tanks à lait d'occasion et des fermenteurs d'occasion. Et puis, quand même, quelques matériels neufs, mais pas grand-chose finalement. Puisque ce n'était pas pour nous la première des conditions pour réaliser, pour brasser une bonne bière. Voilà. On y mettait derrière, en fait, notre bien-être en premier. Si on se sent bien là où on est, si on est dans un cadre qui nous correspond, eh bien, on travaillera bien, quoi, en gros.
et avec la sécurité financière qui vous permet de prendre le temps de réaliser votre projet. Et c'est là-dessus que je me retourne vers Karine. C'est que vous, quand vous évaluez un projet, tant à la Chambre des métiers et de l'artisanat que à l'initiative Ariège, il y a tout cet aspect fonctionnement, gestion au quotidien, fonds de roulement qui est important.
C'est vrai que estimer dans un prévisionnel le besoin en fonds de roulement ou la trésorerie de départ, c'est toujours très délicat.
Est-ce qu'on peut expliquer brièvement ces termes, fonds de roulement, trésorerie?
Alors, le besoin en fonds de roulement, en fait, c'est ce qui permet de financer le cycle d'exploitation. Parce que quand on crée une entreprise, dans une entreprise, on a du stock. Donc ça, on va valoriser le délai de rotation des stocks. Bon, ça dépend vraiment de chaque activité. On a un délai de règlement des clients. Parfois, on peut avoir des clients qui vont payer au comptant. Donc ça, c'est l'idéal. Mais aussi, on a des clients, notamment des professionnels, qui peuvent régler à 30 jours, voire au-delà. Donc ça, il faut aussi l'anticiper. D'un autre côté, on a des fournisseurs avec lesquels on va réussir à négocier des délais de paiement et avec d'autres, non. Donc ça, c'est pareil. C'est financer son cycle d'exploitation. Ça, on le calcule au préalable. Et après, il faut penser aussi à une trésorerie de départ pour pouvoir financer tous les imprévus. Parfois, on peut prévoir un démarrage d'activité effectivement avec du matériel d'occasion, et ça c'est arrivé souvent dans le cas d'accompagnement, du matériel d'occasion peut parfois se trouver défectueux. Donc dans ces cas-là, il faut avoir la trésorerie suffisante pour remplacer le matériel, parce que si l'outil de travail ne fonctionne pas, il n'y aura pas d'activité. Donc voilà, c'est tous ces impondérables qui permettent avec la trésorerie d'être financé. Alors l'objectif c'est effectivement de conserver cette trésorerie au maximum. Mais après, on ne sait jamais ce qui peut arriver et parfois, on n'a pas la boule de cristal pour tout prévoir, malheureusement.
D'autant qu'au au départ, en tout cas les premiers mois, ce décalage dont tu parles, là, entre le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, il est accentué parce que nos fournisseurs n'acceptent pas qu'on paye à 30 jours.
Oui, parce que l'entreprise doit faire ses preuves c'est aussi ça. Vis-à-vis du fournisseur.
Donc nous,
c'est une entreprise nouvelle.
Les premiers achats qu'on a dû faire, et même ça a duré 8 mois, c'était à la commande. Maintenant, on nous dit à la réception.
Nous, d'après l'expérience, comment on évalue ce besoin en fonds de roulement quand on crée l'entreprise? Comment y a des astuces pour ça? Ou c'est basé sur les ventes qu'on va faire, les achats qu'on doit faire avant?
En ce qui concerne la brasserie, ça a été assez simple parce qu'on va calculer nos coûts en fonction du volume qu'on va produire. Alors quand je dis ça, pour moi ça paraît évident, mais il y a autant la matière première que l'électricité, que le salaire. Et pour ça, pour faire cet exercice-là, il faut, je ne sais pas s'il faut, mais c'est très bien d'être accompagné. Là je veux dire, l'initiative Ariège, c'est ou la CMA, ou l'URSCOP aussi, enfin, ces trois entités-là, elles nous ont mis le doigt là où il fallait pour qu'on fasse les bons calculs. Mais une fois que la gymnastique est prise, c'est plutôt simple. Mais de prime abord, je pense qu'on peut se planter, oui.
Donc c'est pour ça l'intérêt d'être accompagné, encore une fois, par différentes structures qui ont l'habitude, ont des clés, ont des modèles de réflexion qui permettent de se poser les bonnes questions et d'évaluer correctement son affaire, quoi.
Complètement. Vraiment, avec du recul maintenant, on se dit tous, hein, mais heureusement. Heureusement qu'on a été accompagné, oui.
Loïc, justement, quand tu vois des gens comme ça qui ont créé leur structure, qui ont fait appel à des structures d'accompagnement, on n'a pas arrêté de le dire tout au long de ces émissions, que c'est important de frapper aux portes pour se faire accompagner parce que personne n'a la science infuse et puis c'est pas forcément inné que de créer son entreprise. Toi, comment tu vois avec le recul le travail, le parcours qui a été fait par la brasserie de Bruno et ses compères?
Après, ça dépend beaucoup des personnalités. Bruno, c'est quelqu'un qui s'entoure et ses trois associés, je les connais un petit peu, je ne les connais pas en détail, mais on sent qu'il y a cette appétence pour le conseil, pour la recherche d'informations, pour la recherche d'avis. C'est une qualité qui est plutôt opportune pour être chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas une recette pour arriver à avoir un modèle équilibré, mais ce que m'inspire aujourd'hui l'échange, c'est que Bruno s'est inspiré de tous les conseils qu'on a pu lui proposer. Il s'en est servi comme repère. Et aujourd'hui, ça aide au pilotage, ça aide à la sérénité. Et ça aide tous les jours à se lever en aimant son travail parce qu'il sait exactement l'effort qu'il va faire, ce que ça va impliquer en termes de frais, en termes de salaire aussi, puisque ça compte. Hein. Il faut aussi se rémunérer, on l'a dit. Il faut se Voilà, il faut donner un petit peu d'eau au moulin, donc c'est important de pouvoir avoir la conscience que son travail, il est dans un cadre équilibré. Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, on en a parlé quand on est entrepreneur, et ça donne de l'air. Donc bravo Bruno, vraiment pour cette appropriation. Merci. Voilà des outils de ce qu'est une entreprise, on pourra peut-être en parler rapidement après, mais quels sont les outils justement qu'il utilise au quotidien ? Il n'y a pas une manière de faire, mais on sent qu'il y a un pilotage. On sent qu'il y a une conscience, on sent que cette entreprise, elle est réfléchie. Il n'y a pas de certitude non plus affichée lorsqu'il parle. Et je pense que toutes ces qualités, ça contribue à faire que Coop a longue vie. Et on lui souhaite.
Et Karine, on a parlé tout à l'heure des guides, pas des modèles, je ne vais pas appeler ça comme ça, mais des feuilles de route, voilà, qui sont proposées aux chefs d'entreprise. Vous avez en plus des outils pour permettre aux chefs d'entreprise de dormir plus sereinement, comme par exemple les fameux prêts d'honneur sur lesquels vous travaillez parfois et qui permettent de se donner un salaire ou de faire tourner la boutique avant qu'elle soit rentable.
Oui, alors le prêt d'honneur vient surtout pour faire effet de levier et pour financer ce que la banque ne va pas financer. Et on en a parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. L'avantage aussi, c'est que le prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne. Donc ça veut dire que pour une banque, c'est considéré comme de l'apport personnel. Donc c'est quand même plus sécurisant pour la banque. Aujourd'hui, dans le cas d'un financement avec un prêt d'honneur, on a plusieurs personnes qui portent le risque. Le porteur de projet, avec son apport personnel, la banque qui va financer du matériel, le démarrage, et Initiative Ariège, qui est plus sur le volet trésorerie, besoin en fonds de roulement. Voilà. Après, c'est en règle générale, mais ça évolue aussi, c'est différent en fonction de chaque projet, en fonction de chaque besoin.
Bruno, maintenant, ça fait 2 ans à peu près que la boîte tourne, et après 2 ans, le recul de 2 ans entre le moment où vous avez commencé vraiment à tourner, à livrer vos premiers clients et aujourd'hui, comment vous voyez votre affaire? Comment vous envisagez l'avenir?
Alors, on a commencé en plus pendant le Covid, nous. En fait, ça nous a servi. On s'en est rendu compte après. Donc, on a commencé inquiet, on va dire, le premier semestre. Et à l'issue de la fin du premier exercice, alors c'est un terme que les futurs entrepreneurs finiront par connaître, mais on parle en exercice. Donc, en général, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais en fait, ça peut être du 15 mars au 15 mars, peu importe, au 14 mars. Donc, c'est un exercice comptable et c'est là qu'on fait le bilan un peu de l'année qui vient de se passer au niveau comptable et financier. Donc, à l'issue des 5 premiers mois, c'était très moyen. On était donc même en déficit, mais ça avait été prévu. On savait que ça allait se passer comme ça parce qu'on commençait beaucoup plus tard que ce qu'on avait envisagé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une société, donc on va enregistrer le nom de notre entreprise, au greffe, donc au tribunal de commerce, pour nous de foi. Et à partir de cette date-là, l'année comptable commence, ou le premier exercice commence. Et nous, on a enregistré notre entreprise milieu d'année 2019. Ce qui fait que c'est une exception dans la vie d'une entreprise. Le premier exercice peut durer plus d'un an. Donc nous, en l'occurrence, il a duré 18 mois. Mais sur ces 18 mois, nous n'avons vendu que pendant 5 mois. Donc évidemment, le résultat était catastrophique. Il était même en déficit de moins 17 000, si je me souviens bien. Mais ça avait été prévu. On savait que ça allait se passer comme ça. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, ça s'est passé comme on l'avait envisagé. Et en parallèle, on a plutôt des bons retours. On nous demande, on a une demande qui s'accentue. Donc malgré ce mauvais résultat, on était confiants. Et la seconde année, donc le premier vrai exercice qui a duré 12 mois, donc 2021, celui-là, il s'est clôturé avec un bénéfice de plus 50 000 euros. Donc tous ces chiffres, vous pouvez les voir sur société.com. Il n'y a rien de secret. Hein, normalement, toutes les entreprises sont censées les donner, les divulguer au public. Et ça, par contre, ça a été une vraie surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Tout ça en payant 4 salaires. Parce qu'une SCOP donc, est composée de salariés associés. Donc, on est obligé de se verser un salaire. Ça veut dire qu'on cotise à la sécurité sociale, on cotise au chômage. Donc, demain, moi, si je m'arrête, eh bien, j'ai droit au chômage. Contrairement à d'autres formes juridiques, comme le libéral, où, eh bien, si tu fermes ta boîte, eh bien, c'est fini, tu te débrouilles après. Donc la première année, voilà, très bonne surprise. La seconde année, on ne sait pas, parce qu'on a embauché une personne en plus. Donc évidemment, ça va diminuer un peu nos bénéfices. En plus, on a l'objectif de faire la même chose que l'an dernier. Tout va bien, mais on reste vigilant. On reste vigilant, on est dans une phase de progression. Donc en ce qui concerne l'avenir, on a identifié donc, un plan stratégique de développement pour lequel on a fait des gros dossiers en début d'année, qu'on a présenté à ADOC, donc à la région, pour une demande de subvention, mais aussi à la Comcom, au département. On souhaite doubler la production d'ici 3 ans et embaucher encore 3 personnes et faire de la brasserie coop un lieu d'animation rurale, un lieu culturel, donc avec un brew pub, c'est-à-dire un bar dans la brasserie, et un théâtre de verdure pour accueillir des théâtres itinérants, par exemple. Donc c'est pour ça que cette année, on a décidé de ne pas augmenter la production, c'est pour ça que cette année, on a décidé d'embaucher, mais c'est risqué. Et je pense que le risque va avec l'entreprise. C'est un risque mesuré, mais c'est un risque quand même. Il est probable que fin 2022, on se dise on était trop rapide, ou on était trop gourmand. Mais pour l'instant, on tient à peu près les comptes, on est pas mal.
C'est ça, parce qu'il y a quand même toujours cette feuille de route qu'il faut suivre, entre guillemets, c'est-à-dire un prévisionnel qui montre une tendance. Si on est à peu près cohérent par rapport à cette tendance, trop au-dessus, trop en dessous.
C'est ça. Donc, on parlait tout à l'heure d'outils. On a dans l'équipe Jean-Yves qui était lui rompu à cet exercice de manipulation d'Excel, etc. Donc, il a créé des outils de pilotage et de gestion d'entreprise qui sont précis et exhaustifs, surtout. Donc, ça va du stock au chiffre d'affaires en passant par les impayés. Donc, nous, à peu près tous les 15 jours, on fait un point. On en est où le mois dernier, en septembre 2021, on avait fait 24 000. Bon, ben, il faut qu'on fasse 24 000 ce mois-ci. Ce mois-ci, là, exactement aujourd'hui, on en est à 19 000 et on est le 20. Donc, il nous reste 10 jours pour faire 5 000. C'est vraiment quelque chose dont on se sert constamment. C'est un bon indicateur.
Et c'est un coup de stress ou au contraire, c'est motivant?
Jusqu'à maintenant, pour nous, comme il n'y a pas de gros fossés ou de grosses vagues, c'est pas stressant. Mais ça pourrait l'être. Mais on considère tous que c'est un bon stress. En psychologie, on parle de distress et de stress. Bon, là, c'est un bon stress qui arrive suffisamment tôt, donc tous les 15 jours, c'est tôt. Hein.
Et Karine, donc vous suivez régulièrement les entrepreneurs qui avancent sur leur chemin, sur l'évolution de leur entreprise. Vous les voyez régulièrement, à quelle fréquence, pour faire quoi avec eux?
Alors, on fait un point avec eux tous les trimestres pour voir l'évolution du chiffre d'affaires. Et puis après, c'est aussi, suite au démarrage d'activité, avoir un peu leur retour, hein, savoir comment se sont passés les premiers mois. Et après, on les rencontre une fois par an, où là, on va balayer avec eux toute l'activité, hein, que ce soit la stratégie commerciale, la communication, les ressources humaines, le développement de leurs produits, leur différenciation, voir avec eux justement comment ils ont tracé cette route pour se développer et voir si les objectifs qui s'étaient fixés au départ, ils arrivent à les atteindre. C'est aussi... très important dans le cadre du suivi, de voir si le prévisionnel colle à la réalité et si oui, très bien, sinon pourquoi ? Et essayer de trouver avec eux ce qui pêche et savoir pourquoi ça ne fonctionne pas.
C'est donc une espèce de mise à jour de ce prévisionnel pour le réajuster avec la vie de l'entreprise en fait.
Voilà, tout à fait. Une vie d'entreprise, il y a plein d'impondérables, c'est jamais linéaire, le démarrage peut se passer très bien ou moins bien. Et dans ces cas-là, il va falloir réajuster le prévisionnel. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionnera pas. Mais il faut en tenir compte.
Loïc, donc, là, on a vu donc, un chef d'entreprise qui a développé son affaire, qui a utilisé les ressources qui étaient à sa disposition et des ressources personnelles, c'est-à-dire les trucs et astuces, aller chercher dans son réseau ou dans ses connaissances des produits d'occasion, aller affiner auprès de son réseau, faire tester ses bières auprès de ses amis, de ses collègues de travail pour démarrer avant de se lancer véritablement. C'est la vie de tout chef d'entreprise, ça? Comment ça se passe?
Il y a des chefs d'entreprise qui ont un modèle équilibré et qui nous diront qu'ils ne se sont pas fait accompagner, donc il n'y a pas une manière d'y arriver. Là, l'objet, je crois, de toute cette série d'émissions, c'est en tout cas de guider vers le réflexe de se tourner vers des ressources. On parle d'accompagnants, on parle plus tard aussi d'organismes professionnels qui sont des fournisseurs de services, la banque, l'expert comptable. Donc c'est un état d'esprit, en fait, d'être tourné vers l'autre, d'être dans la prévention, d'être dans la mesure de pouvoir anticiper dans la mesure des possibilités, parce que de toute façon, tout n'est pas contrôlable, on l'a vu, mais c'est des qualités qui font que ça sera aussi plus agréable, parce que c'est aussi ça, être chef d'entreprise. Moi, je ne l'ai jamais été, mais je vous écoute beaucoup, et ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, vous prenez plaisir à être là où vous êtes. Donc si vous prenez plaisir, c'est parce que vous vous donnez les moyens, et s'entourer, ça fait partie d'un des moyens pour que la vie de l'entreprise soit agréable et pérenne dans le temps.
Bruno, dernière chose avant de nous quitter, c'est important à votre avis pour une entreprise de participer localement à des animations, de créer des événements locaux ?
C'est clair, surtout pour la brasserie, pour la bière, puisque c'est une boisson qu'on retrouve volontiers dans l'événementiel, donc ça c'est même primordial. Et puis, en ce qui nous concerne, en tout cas en Ariège, on n'est pas vraiment confronté à une concurrence frontale. On peut lier des partenariats avec nos confrères, nos consoeurs brasseurs et faire des événements sans tout de suite penser à la concurrence ou au mal qui peut être commis dans un modèle capitaliste. Donc ça, c'est très confortable. C'est important de participer aux événements, je pense, pour tout artisanat. Bon, moi, je connais que la brasserie, mais quand je vois, par exemple, au Festival des Saveurs à Axe ou à la Foire de Nature et Progrès à Saint-Lizier qui a eu cette semaine, enfin, ce week-end-là, ce sont plein d'artisans qui portent leurs produits auprès du public et c'est grâce à ces foires et ces marchés qui se font connaître, qui font du réseau, qui peuvent ensuite, pourquoi pas, porter des événements communs. Donc, ça me paraît important. Ouais.
Allez, dernière question, profitons-en. Le nom de votre brasserie ?
La brasserie Coop.
Combien de sortes de bières différentes ?
Alors, on a 4 bières permanentes et puis toujours agrémentées de une ou deux bières éphémères ou de saison selon les produits du moment, si possible locaux.
Et comment on vous identifie ?
Alors, nos bouteilles sont plutôt trapues et très sombres. C'est un modèle Steiny qui fait penser à la Duvel, par exemple, aux bières belges. Donc, c'est des bières assez épaisses. Et l'étiquette est marquée par un florilège de feuilles de houblon et d'épis de blé entourant un cercle dans lequel on va retrouver notre marque, donc qui vraiment va ressembler à une capsule. Et autour de cette marque, il y a 4 mains qui plongent vers la marque et qui symbolisent un peu la coopération.
Des 4 copains.
Voilà.
Merci Loïc, le mot de la fin ?
Je crois qu'il est temps de passer à la dégustation, Bruno.
Merci, messieurs, madame, merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Et puis, on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler prochainement, voir peut-être la suite des aventures de Bruno dans sa brasserie et surtout de revenir aussi avec le travail de Karine avec des initiatives Ariège lors d'une prochaine émission, d'ailleurs, qui concernera beaucoup plus cette fois-ci Initiative Ariège et son mode d'accompagnement. Merci, à bientôt.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore.